Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 16. Luc 4, verset 16. Amen. J'aimerais poursuivre sur le thème de la guérison divine. Donc dans Luc chapitre 4, verset 16, c'est Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il était dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. La semaine dernière, on a parlé déjà du problème de la maladie qui touche tous les êtres humains, et on a vu les chrétiens y compris connaissent aussi la maladie. Mais nous avons parlé aussi de la toute-puissance de Dieu et de sa volonté de nous venir en aide. Alors ce matin, j'aimerais voir particulièrement les solutions que Dieu a prévu face à la maladie. La maladie, la malédiction et la mort, nous l'avons vu, sont entrées à cause du péché. Mais Dieu a veillé sur un certain nombre de solutions. La première d'entre elles, en fait, se trouve en nous. Parce que Dieu a mis dans chaque être humain un potentiel de guérison qui s'appelle le système immunitaire. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Pas forcément enfants de Dieu d'ailleurs, parce que seuls sont enfants de Dieu ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur et qui reconnaissent Dieu comme Père. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu, et la Bible dit dans le psaume 139 que nous avons été faits d'une admirable manière. Le corps humain en lui-même détient des possibilités extraordinaires. David écrit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien ». Il y a une autre version qui dit « Je te confesse de ce que je suis, une vraie merveille, tes œuvres sont prodigieuses, oui, je le reconnais bien. » Alors, je peux confesser ce matin, je suis une vraie merveille. Que Dieu soit béni. Voilà. J'ai relevé un petit article pour vous montrer le potentiel que Dieu a mis dans le cœur humain. C'est écrit par des médecins. Ce n'est pas forcément des croyants qui écrivent ceci. Mais il constate que dans le corps humain, il y a un potentiel de guérison. Ils écrivent « Le système immunitaire fonctionne un peu comme une forteresse. Les agresseurs, c'est-à-dire des bactéries, des virus ou des champignons, qui tentent d'y entrer, doivent d'abord faire face à un mur d'enceinte, la peau et la muqueuse. Dès que l'un de ces envahisseurs arrive à passer dans notre corps, une véritable armée passe à l'attaque. » Pour tenter de le détruire, une première ligne de soldats, les macrophages et les globules blancs, vont stopper l'ennemi. Et on ne s'en rend pas compte, mais cette armée passe son temps à nous débarrasser des intrus. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça montre que nous avons été créés d'une manière admirable, merveilleuse, comme dit la parole de Dieu, et qu'il y a en nous tout un processus, alors même que nous dormons, alors que nous n'y pensons pas, mais il y a des agents à l'intérieur de nous qui défendent notre corps contre les maladies et contre les virus. Ça, c'est la première chose donc, que Dieu a placée dans l'être humain pour répondre à la maladie. C'est ce système immunitaire qui nous permet eh bien, de lutter contre certains virus, certaines maladies, et il y a toute une armée qui se met en place. Deuxième élément que Dieu a donné à l'homme, c'est que Dieu a donné à l'être humain la capacité de soigner les autres hommes par les médecins. Alors, faut-il utiliser des médicaments? Et quelquefois, on me pose la question, oui, mais si on croit que Dieu guérit, à quoi ça sert d'utiliser des médicaments? Finalement, puisque Dieu guérit, est-ce que les chrétiens doivent prendre des médicaments? Est-ce que les chrétiens doivent aller chez le médecin? Moi, je réponds que oui, parce que les chrétiens ne sont pas contre la médecine. D'abord, ce n'est pas incompatible d'être médecin et d'avoir la foi. Je pense à ce célèbre médecin qui est le père de la médecine moderne, Ambroise Paré, qui disait « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Donc, nous pouvons nous tourner vers la médecine, mais nous avons confiance que derrière les médecins, il y a la main de Dieu qui intervient. Pourquoi nous croyons cela? Parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Il a donné l'intelligence aux médecins, et Dieu n'est pas contre les médecins, puisque parmi les quatre évangélistes, il y en a un qui était médecin, qui s'appelle Luc. Luc était médecin de profession, et Dieu l'a choisi pour écrire un évangile. Alors, nous bénissons le Seigneur, au contraire, pour les progrès de la médecine, et nous ne sommes pas du tout contre la médecine, nous, au contraire, nous bénissons. D'ailleurs, il y a des médecins chrétiens dans tous les corps de médecine, il y a des chrétiens, et ça n'empêche pas d'avoir la foi et d'exercer la médecine, en demandant même le secours de Dieu pour avoir les bons diagnostics, pour avoir les bons remèdes dans telle ou telle maladie. Donc vous voyez, ce n'est pas en opposition, mais c'est en complémentarité. D'ailleurs, je pense que c'est votre cas aussi, mais personnellement, je préfère être opéré aujourd'hui, à notre époque en 2016, que, par exemple, au Moyen-Âge. S'il fallait vous retirer une dent au Moyen-Âge, c'était moins drôle qu'aujourd'hui. Parce que la médecine a fait des progrès. La médecine, Dieu a donné cette intelligence, cette capacité. Aujourd'hui, on en arrive même à des opérations à distance par machine interposée. Vous vous rendez compte qu'un médecin peut être même aux États-Unis et faire une opération dans un autre pays. Par machine interposée, c'est quelque chose d'inimaginable il y a plusieurs années, mais maintenant, c'est possible. Donc, la médecine va encore progresser, et merci Seigneur pour cela, et c'est une bonne chose. Et que Dieu bénisse les médecins, et on peut prier particulièrement si on doit aller à l'hôpital ou si on doit subir une intervention, on prie pour les médecins pour qu'ils soient vraiment conduits dans leur intervention. Ce n'est pas facile ce qu'ils font, beaucoup de pression, beaucoup de malades, et ils doivent aller toujours plus vite. Je lis un texte dans 2 Chroniques 16, 12 pour vous montrer parfois que ce texte est utilisé pour montrer qu'il ne faut pas consulter les médecins. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Donc Asa, c'est un roi. Il éprouvait de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et la Bible dit qu'il est mort par la suite. Alors, le problème de cet homme, ce n'est pas tellement qu'il a consulté les médecins, mais il ne chercha pas l'Éternel. C'est surtout ça qui est souligné dans l'Écriture. Ce n'est pas à cause du fait qu'il a consulté les médecins, mais en réalité, il n'a pas cherché l'Éternel et il va avoir en fait une sanction sur sa vie qui va être écourtée, qui va être reprise. Parce que si quelqu'un refuse de se soigner, j'ai parfois rencontré cela, c'est tout à fait étonnant, des chrétiens, pourtant qui sont sincères, qui aiment Dieu, mais qui disent « Oui, mais si je prends ce médicament ou cette plante ou ceci ou cela, alors toute la gloire ne reviendra pas à Dieu si je suis guéri. » Moi, je ne raisonne pas de cette manière-là parce que c'est Dieu qui a donné les plantes, c'est Dieu qui a donné tout ce qui nous environne. Et c'est Dieu qui a permis même aux médecins de pouvoir concevoir des médicaments avec toutes sortes de plantes, en fait, toutes sortes de molécules. Et donc, Dieu peut intervenir de manière directe ou de manière indirecte. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas rejeter en disant, si je prends ce médicament, la gloire ne revient pas à Dieu. Pour moi, la gloire revient à Dieu dans tous les cas de figure, que ce soit avec des médicaments, que ce soit par l'intervention de l'homme, un médecin, parce que derrière la main du médecin, il y a la main de Dieu, que ce soit par des plantes, parce que Dieu a créé les plantes et les a placées dans la nature. Donc, de toute manière, toute la gloire revient à Dieu, quoi qu'il arrive. C'est lui qui tient nos vies, notre vie, entre ses mains. Mais refuser de prendre un médicament ou refuser de prendre des soins pour dire « Dieu va me guérir, moi je m'attends que à Dieu et je ne veux rien savoir des médecins et des médicaments », moi je trouve que c'est tenter Dieu, un petit peu comme le diable a tenté Jésus. Vous voyez qu'il a tenté Jésus, il a placé Jésus sur le haut du temple et il a dit à Jésus « Jette-toi en bas ». Et tu verras bien que des anges vont venir à ton secours et qu'il ne t'arrivera rien. Ça s'appelle tenter Dieu. Et Jésus n'a pas répondu à cette demande-là. Sachant que dans le cas de Jésus, très certainement que s'il l'avait fait, Bien sûr, des anges l'auraient protégé pour qu'il ne lui arrive pas de mal. Mais néanmoins, il n'a pas voulu entrer dans cette direction-là et il a coupé court à cette tentation en disant « Non, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. » C'est pourquoi tout ce que Dieu a placé, que ce soit les plantes, les substances utilisées dans les médicaments, etc., eh bien, tout peut être utile pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, je constate même que dans l'Écriture, l'apôtre Paul a donné un conseil médical à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Timothée, semble-t-il, avait une santé fragile. Pourtant, il était serviteur de Dieu, mais il avait des fréquents malaises, fréquents maux d'estomac. Alors, on ne sait pas exactement quelle était sa maladie. Alors, il lui dit, ne continue pas de ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et le mot indisposition, c'est traduit des fois malaise, ou alors, enfin, le mot original, c'est asthénia, d'ailleurs, qui a donné le mot asthénie, qui signifie manque de force, faiblesse, infirmité. J'ai relevé une autre version qui dit ceci, français courant, « Prends un peu de vin pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent malade. » Alors, on a là un serviteur de Dieu qui s'appelle Timothée, qui a des problèmes de santé. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Paul, en tout cas, il n'est pas dit que Paul lui impose les mains, prie pour qu'il soit guéri comme cela. C'est vrai qu'il aurait pu aussi le faire de cette manière-là. Mais il donne une autre orientation en disant, ben, prends un peu de vin. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a créé le raisin et qui a donné ses propriétés qui, par l'alcool, permettaient bien de soigner certaines maladies. Alors, vous voyez que même l'apôtre Paul, qui pourtant avait plusieurs miracles à son actif, n'est pas contre simplement du bon sens pour dire, voilà, dans la nature, il y a des choses qui sont bonnes pour nous. Eh bien, prenons-les pour avoir une bonne santé. Je prends un autre exemple dans l'Ancien Testament, celui-ci, c'est Ézéchias. Donc, Ésaïe va vers le roi Ézéchias avec une parole de Dieu, sachant que Ézéchias va bientôt mourir. Il lui dit, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Et puis, il part, et lorsqu'il est en train de partir, Dieu lui donne, entre-temps, Ézéchias demande pardon à Dieu pour ses péchés, il se repent sincèrement. Dieu, donc, change ses dispositions vis-à-vis d'Ézéchias et il va prolonger ses années de 15 ans. Alors, Dieu prévient Ésaïe, le prophète, de retourner voir le roi, lui dit, j'ai écouté ta prière, je te guérirai, c'est une parole de Dieu, je te guérirai, tu vivras 15 ans de plus. On pourrait dire, juste avec cette parole, c'est bon. Mais néanmoins, c'est écrit dans 2 Rois 27, Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on les appliquait, et on l'appliquait sur l'ulcère, donc l'ulcère d'Ézéchias, et Ézéchias guérit. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, donc, ce cataplasme de figues était utilisé comme un soin, comme un traitement, par rapport, par exemple, au furoncle, pour les faire mûrir. Et on voit que Ésaïe a appliqué un traitement médical un petit peu connu, hein, reconnu, c'était utilisé par les médecins, c'était les médicaments de l'époque, tout en ayant une parole de l'Éternel qui disait « Je le guérirai ». À la limite, on pourrait se dire, bon, il aurait pu se passer des figues et puis se dire, médicament, je le mets de côté. Mais néanmoins, il a fait le cataplasme et il a cru que Dieu allait guérir. Vous voyez que les deux ne sont pas incompatibles et que la gloire, elle revient à Dieu de toute manière. Une autre solution, et c'est la solution par excellence, après bien sûr le système immunitaire et l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, c'est-à-dire les médecins pour nous soigner, il y a l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, et ça c'est dans Ésaïe 53, verset 4. Il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc c'est un verset bien connu de l'Écriture qui se trouve dans le prophète Ésaïe et qui concerne le Messie à venir. Si nous regardons bien ce verset, Il est d'abord question du péché. Par exemple, le verset 5 dit « Il était blessé pour nos péchés ». Ensuite, il est question des iniquités. Donc, c'est le premier sens du verset, c'est qu'à la croix, Jésus a porté nos péchés et il les a effacés définitivement. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est le pardon des péchés. Nos péchés ont été portés devant Dieu. Et c'est intéressant de voir comment ce passage a été compris par les auteurs du Nouveau Testament. Et vous allez voir une évolution. Tout d'abord, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, qui reprend ce passage, et bien sûr, il va être question du pardon des péchés aussi. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois », donc on revient à cette pensée, « que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par des meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors là, il apporte une petite nuance, il dit que voilà, c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Donc spirituellement, on voit qu'à la croix, il y a eu une œuvre puissante qui permet une guérison. Et en fait, la guérison, elle a eu lieu ici. Elle n'a pas eu lieu au moment où on est guéri, mais vous avez été guéri. C'est quelque chose comme qui est acquis spirituellement dans l'œuvre de la croix. Et puis, la deuxième fois où ce texte est mentionné, on va voir que Matthieu, qui le cite, associe maintenant la guérison physique à l'œuvre du pardon des péchés. C'est dans Matthieu 16:16. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Et maintenant, on voit que Matthieu associe la prophétie concernant le Messie d'Ésaïe 53. Il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, mais il rajoute, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies et il associe à une œuvre de guérison du Seigneur. C'est pourquoi nous croyons qu'à la croix, Jésus a effacé nos péchés, mais qu'il a aussi permis notre guérison et notre délivrance et nous nous attendons à Dieu pour cela. En fait, à la croix, il y a quatre choses qui ont été vaincues. Premièrement, la malédiction de la loi pour que nous obtenions la bénédiction. Deuxièmement, la puissance du péché pour que nous obtenions le pardon des péchés. Troisièmement, la maladie pour que nous obtenions la guérison. Quatrièmement, la mort pour que nous obtenions la résurrection. Voilà l'œuvre de la croix résumée en quatre étapes. Malédiction transformée en bénédiction. Péché, pardon des péchés. Maladie, guérison. La mort, c'est la vie éternelle. Alors, nous sommes bénéficiaires de cette œuvre de la croix. C'est pourquoi si quelqu'un est malade, nous pouvons nous attendre à l'intervention de Dieu et nous croyons qu'il a la puissance de guérison pour guérir toute maladie, toute infirmité. Et nous voulons croire qu'il est encore capable aujourd'hui de guérir les malades. Nous voulons nous attendre à Dieu pour cela. Toutefois, même si nous sommes guéris, cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés, bien sûr, c'est séparé. Il y a le salut, le pardon des péchés, c'est le plus important. C'est toujours plus important qu'une guérison, parce que beaucoup de personnes ont été guéries, mais n'ont jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi elles peuvent mourir dans leurs péchés et être séparées de Dieu. Ce qui est le plus important, c'est le pardon des péchés. Ensuite, la guérison, c'est une grâce. Mais sachant bien même que si quelqu'un est guéri par l'œuvre de la croix, rien n'empêche qu'un jour il puisse retomber malade et un jour il devra quitter cette terre. Donc la complète délivrance des maladies n'est pas sur cette terre, mais elle sera dans le ciel. 1 Corinthiens 15, 42 nous rappelle cette réalité. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, donc actuellement notre corps est corruptible, il est sujet aux maladies, mais il ressuscitera incorruptible. Donc dans la gloire, c'est terminé, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Actuellement, il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Mais nous sommes dans la première partie à chaque fois. Nous sommes dans la partie corruptible, nous sommes dans la partie méprisable, infirme, naturelle. Et ça, c'est pour la durée de notre vie terrestre. Mais dans l'éternité, c'est incorruptible, glorieux, plein de force, spirituel. Ça, c'est ce qui nous attend pour l'avenir. J'aimerais dans un deuxième temps voir maintenant le ministère de guérison de Jésus. On a parlé de l'œuvre de la croix qui est prophétisée dans Ésaïe, qui est reprise dans le Nouveau Testament appliquée au Messie. Mais regardez par exemple Marc chapitre 1 et au verset 27, comment Jésus agissait pour guérir les malades. Le ministère de guérison de Jésus. Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans une synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et au verset 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Si vous regardez bien ces trois versets, vous voyez trois choses qui ressortent dans le ministère de Jésus. Premièrement, il enseignait la parole, donc il annonçait le royaume de Dieu, il faisait connaître les œuvres de Dieu, ça c'est la prédication. Deuxième chose qu'il faisait, il priait pour les malades, et bien sûr, il avait beaucoup de malades qui venaient chercher la guérison auprès de Jésus. Et troisième chose, il chassait les mauvais esprits. Donc nous retrouvons tous ces trois éléments tout au long du ministère du Seigneur, que ce soit l'enseignement, prière de guérison ou délivrance des démoniaques. Ça, c'est un véritable contraste avec l'Ancien Testament, parce que quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas des prophètes opérer ces trois choses en même temps. Et on a beau chercher, bien que sporadiquement on voit des guérisons, c'est vrai qu'on a dans l'Ancien Testament des guérisons, mais à la manière que Jésus produit des guérisons, avant lui, il n'y en avait pas. Il y a eu bien sûr des exemples de grandes bénédictions. Je pense à Naaman qui a été guéri. Il y a plusieurs personnes qui étaient malades qui ont été guéries dans l'Ancien Testament. On peut citer aussi le cas de Saül pour les mauvais esprits. Il était tourmenté par un mauvais esprit. Puis David, jouant de la harpe, éloignait le mauvais esprit. Mais bon, globalement, c'était plus sporadique. Jésus, lui, il l'a manifesté avec abondance. C'est comme si la puissance de Dieu s'est manifestée de manière concrète dans cette terre. Alors, je donne quelques exemples concernant Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Un jour, 10 lépreux viennent voir Jésus. Ils sont malades, condamnés par la médecine. Il n'y a aucune issue pour eux. Eh bien, Jésus ne prie même pas pour eux. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et il arrivait que pendant la marche, ils ont tous été guéris. Un seul Samaritain est venu rendre gloire à Jésus. Mais la puissance de Jésus a permis la guérison de ces 10 lépreux. Un homme paralytique depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, qui ne pouvait pas se déplacer, Jésus lui parle, il ne pouvait pas se jeter dans la piscine pour bénéficier de la guérison. Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Il dit oui, je veux être guéri, mais personne ne vient me jeter dans la piscine. Mais il y avait une autre manière, et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et la guérison prend place dans le corps de cet homme. 38 ans malade, instantanément, il est debout, pas de séquelles, c'est une guérison extraordinaire. Puis la fille de Jaïrus, mourante, le père vient qu'on prie pour sa fille. C'est trop tard, on vient lui dire, mais ta fille est morte, n'importune point le maître. Jésus vient, la fille est morte, mais il prie pour une résurrection et la jeune fille ressuscite. Donc vous voyez, des exemples de guérison, il y en a beaucoup. Et Jésus guérit souvent, instantanément et parfaitement. Je pense à Bartimée. La Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue. Souvent, vous voyez, quand Jésus guérit, c'est aussitôt ou à l'instant. C'est dans Marc 10, 53. Dans Marc 1, 31, la belle-mère de Pierre, il prie, Jésus la prit par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Donc on voit que souvent Jésus guérit instantanément. Je pense à l'officier du roi, dont le fils était malade, près de mourir. Lui, il est venu à la rencontre de Jésus, mais il n'avait pas le temps que Jésus revienne jusque chez lui. Donc il a simplement demandé à Jésus de prier sur place. Et Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Et le temps qu'il rentre, ça a demandé une journée de marche. Dans Jean chapitre 4, 51, il dit, comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que que Jésus avait dit, « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Donc, à cette heure-là, la parole de Jésus a produit la guérison à distance de l'autre côté, là où il ne pouvait être présent physiquement. Et puis, la femme cananéenne, qui vient parce que sa fille est cruellement tourmentée par un démon, Jésus donc va prier et reconnaître « Ta foi est grande à cette femme, qu'il te soit fait comme tu veux », et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, vous voyez, aussitôt, à l'instant, à l'heure même, et on voit la manière de Dieu qui peut agir spontanément d'un seul coup. Je prends l'exemple qui est arrivé à Laurence, mon épouse, il y a quelques années, donc, qui avait trois maladies qui se conjuguaient, fibromyalgie, spondylarthrite ankylosante et maladie de Behçet, une maladie orpheline, et qui l'handicapait pendant un an, deux ans, trois ans, qui évoluait dans son corps. Et bien sûr, nous prions tous les jours pour que Dieu agisse dans sa vie, mais rien ne semblait, en tout cas à vue humaine, évoluer. Ça a été un long combat et beaucoup ont prié pour cela. Et ce qui est décourageant, c'est quand les mois passent, les années passent et qu'on ne voit pas la situation changer. On n'avait même pas un petit nuage ou une petite éclaircie qui pourrait nous dire « ça y est, ça va s'améliorer » ou progressivement les choses évoluent. Non, tout a été quand même difficile et pesant. Et puis, du jour au lendemain, alors que, comme d'habitude, elle allait prendre ses médicaments, comme elle le faisait chaque jour, mais là, elle reçoit vraiment une parole, une conviction. « Non, tu ne prends pas tes médicaments, je te guéris aujourd'hui. » Et elle n'était tellement pas sûre que c'était... Elle voulait être sûre que ça soit Dieu, parce que c'est quelque chose de, quand même de fort et de sérieux, et qu'on ne recommande surtout de ne pas arrêter un traitement, bien sûr. Ça peut être dangereux. Et donc, elle a attendu et... Vraiment, pour s'assurer, est-ce que c'est bien toi, Seigneur ? Est-ce que c'est vrai ? Tu ne prends pas tes médicaments, je te guéris aujourd'hui. Et à ce moment-là, elle a senti la guérison rentrer dans son corps. Et cette guérison s'est produite, non pas en une semaine ou 10 jours, elle s'est produite à l'instant où elle a reçu sa guérison. On peut parler de guérison instantanée. Donc, elle a pu se redresser, les os ont craqué, tout s'est remis en place, et elle a pu bouger, en fait, faire tous les mouvements qui la faisaient souffrir, indépendamment. C'est une guérison, on va dire, instantanée. Ce n'est pas toujours la manière de Dieu d'agir, parce que Dieu agit de différentes manières, on va le voir. Mais ça peut être d'une manière instantanée. Et c'est aussi une guérison complète, si je puis dire, puisque comme elle prenait de la drogue, de l'opium, tous les jours, elle prenait de la morphine et de l'opium, tous les jours, on ne doit pas arrêter un traitement comme ça du jour au lendemain. Il faut le faire progressivement. Sur un mois, vous baissez, et puis après, le mois d'après, vous baissez, et sur 3 mois, vous arrêtez. Et c'est les consignes qu'elle avait du médecin. Et bien sûr, elle avait même eu un moment donné à baisser. Et moi, j'avais vu combien elle était en manque de drogue. Parce que quand on lui baissait un peu ses doses, eh bien, comme un drogué qui n'a pas sa dose, eh bien, le corps réclamait, en fait. Et donc, on pouvait se dire, mais si elle arrête du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il ne s'est absolument rien passé. Le corps n'a même pas réclamé de drogue ou de manque, parce que, en fait, c'est comme si Dieu avait régénéré la totalité. Tout était parfait. Elle pouvait faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant, du jour au lendemain. Mais je dirais, ça, c'est une manière de Dieu d'agir, mais ce n'est pas la seule manière. Dieu peut guérir aussi progressivement. Et là, j'ai un exemple dans la parole, c'est dans Marc 8, verset 22. C'est le seul exemple, d'ailleurs, qu'on a d'une guérison progressive. Marc 8, 22, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux et lui imposa les mains et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, « N'entre pas au village. » C'est dans l'Écriture, ce texte, le seul exemple où Jésus s'y prend à deux fois pour guérir quelqu'un. D'abord, Jésus prend du temps pour cet homme pour l'attirer, parler avec lui et l'attirer hors du village. Peut-être que, déjà dans ce village, il y avait des influences mauvaises dont il a voulu le séparer. Et donc il le prend par la main. Cet homme qui est limité, Jésus va le conduire. C'est un petit peu original parce que Jésus utilise la salive et ça arrive très rarement. Mais néanmoins, il lui impose les mains. Et malgré la prière de Jésus, nous constatons, et il demande, est-ce que tu vois? Et lui, il répond, oui, mais ce n'était pas très net. Il voyait des choses qui bougent, ça ressemble à des arbres, mais c'était des hommes, enfin. La guérison n'est pas encore vraiment en place. On pourrait parler de guérison partielle. En tout cas, Jésus n'a pas voulu laisser cet homme dans cette situation de demi-guérison où il voyait, certes, il y avait eu un grand progrès par rapport au moment où il était aveugle, mais en même temps, Jésus a voulu qu'il soit entièrement guéri. C'est pourquoi il lui impose à nouveau les mains et il a été, la seconde fois, entièrement guéri. Il voyait tout distinctement. On peut se poser la question, pourquoi Jésus s'y est repris à deux fois? Est-ce qu'il n'est pas tout puissant pour réussir, admettons, en une fois, ce que là, il a fait en deux fois? Personnellement, je pense que Jésus pouvait le faire d'un seul coup. Comme à chaque fois, d'ailleurs, parce que c'est un cas unique, Marc 8, vous ne trouverez pas un autre endroit où Jésus s'y reprend à deux fois. C'est un cas unique dans l'Écriture. Je pense qu'il a laissé ça pour nous laisser un exemple que quelquefois, il nous faudra aussi persévérer dans la prière jusqu'à la guérison complète. Alors peut-être on a eu une amélioration, on a eu une demi-guérison, si on peut dire, mais en tout cas, ne nous décourageons pas pour attendre de Dieu la guérison complète. C'est intéressant parce qu'on a exactement le même exemple pour le parallèle par rapport aux délivrances. À chaque fois que Jésus prie pour délivrer un possédé, toujours les mauvais esprits s'en vont aussitôt. Mais il y a un seul exemple dans l'Écriture où le démon ne part pas tout de suite. C'est le possédé de Gadara. Lorsque Jésus lui dit, vous pourrez regarder, c'est dans Marc 5, Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Eh bien, le démon ne sort pas à ce moment-là. Et le démon commence à parler et lui dire, Jésus lui dit, quel est ton nom? Légion. Alors après, il négocie, envoie-nous dans les pourceaux, on ne veut pas quitter le territoire, et patati et patata. Et ça dure un certain temps. Et c'est le seul cas aussi où là, il y a une lutte qui s'engage et qu'il va falloir patienter, prier, jusqu'à temps qu'il parte. Alors pourquoi encore cet exemple? Eh bien, pour nous montrer que quelquefois, il va falloir lutter, il va falloir combattre, il va falloir pour persévérer jusqu'à ce que la victoire soit remporté. Alors on le voit que ce soit pour les guérisons, que ce soit pour les délivrances, eh bien je pense que Jésus a laissé ces exemples, non pas qu'il n'avait pas la puissance pour le faire, du premier coup qu'il parle, ils auraient pu tous partir, mais nous voyons comment il a géré ça et comment ils sont partis de toute manière, même si il a fallu s'y reprendre à deux fois, à trois fois pour qu'ils partent. Alors trop de chrétiens peut-être sont entre guillemets limités à la guérison instantanée et se disent Dieu, il fait toujours comme ça dans la Bible, donc c'est comme ça que s'il ne répond pas la première fois, ce n'est pas la peine. Mais nous voyons, avec Marc 8, que nous pouvons nous attendre à Dieu et continuer à prier, jusqu'à ce que nous obtenions la bénédiction. Généralement, les guérisons et les délivrances sont bien séparées dans le ministère de Jésus. J'ai un verset pour cela, c'est Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc on voit que Jésus a une parole d'autorité pour les démoniaques et qu'il prie pour les malades et souvent il leur impose les mains pour qu'ils soient guéris. Les deux choses sont donc deux secteurs, on va dire, séparés. D'un côté, il y a les guérisons, donc des problèmes physiques, et d'un autre côté, il y a des problèmes spirituels avec des mauvais esprits. Néanmoins, là encore, il y a deux cas dans l'Écriture où les choses sont mélangées. Par exemple, la femme courbée, c'est une femme qui était bien malade physiquement, mais en fait, son problème, c'est qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. C'est dans Luc chapitre 13, verset 11. Ça faisait 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser, donc c'est bien physique, c'est bien un problème physique, c'est-à-dire si elle était allée voir un médecin, on lui aurait diagnostiqué un problème physique, une maladie. Mais en réalité, Jésus a discerné, c'est une chaîne que Satan a placée sur elle depuis 18 ans, c'est au verset 16, Satan la tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ça, personne ne l'avait vu dans la synagogue, les médecins, personne ne pouvait le savoir, il n'y a que par le discernement que Jésus a pu le saisir. Et effectivement, cette femme a été délivrée du mauvais esprit qui la tenait liée, et en même temps que l'esprit est sorti, la guérison a pris place. Donc on voit parfois un lien entre les mauvais esprits et la maladie. Je pense à un démoniaque aveugle et muet dans Matthieu 12, 22. Là encore, c'est pourtant un mauvais esprit qui habite cet homme, mais il est aveugle, c'est physique, et il est muet, c'est encore un problème physique. On pourrait dire qu'il est malade, mais en même temps, le problème, c'est qu'il est possédé d'un mauvais esprit aveugle et muet. Et quand Jésus a chassé l'esprit, la Bible dit qu'il parlait et il voyait. Je peux aussi citer le cas de l'enfant que les disciples n'avaient pas réussi à guérir. Vous savez, ils avaient eu un échec. Le père vient pour cet enfant et ils n'ont pas pu le guérir. Marc 9, 25 dit, Jésus s'adresse à l'esprit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et on se rend compte que c'était un esprit, en fait, qui communiquait cette maladie de surdité et de cécité, qui l'empêchait donc de voir. Ce n'était pas une maladie physique, c'était spirituel. Donc on a deux ou trois cas comme ça qui nous montrent que bien, des mauvais esprits peuvent être liés à des maladies. Ce n'est quand même pas la majorité des cas, bien sûr. La plupart du temps, c'est des maladies physiques, d'un côté, les problèmes spirituels de l'autre. Et comme quoi, on a besoin du don de discernement des esprits pour ces cas-là. On va prier quelques instants. On a vu la manière de Dieu de faire, combien il a placé des solutions, à la fois dans notre corps, à la fois parmi les médecins, qu'il a donné l'intelligence aux hommes, et puis l'œuvre de la croix, qui est vraiment l'œuvre de guérison à laquelle nous pouvons nous attendre. La manière dont Jésus guérissait, peut être instantanée, qui peut être aussi progressive. Il nous faut être, en fait, ouvert et réceptif à tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. Prions quelques instants. Merci encore pour ta parole. Nous croyons que c'est toi qui guéris, Seigneur, que tu fais une œuvre grande et belle et que tu as encore pour ton Église, pour tes bien-aimés, tes enfants, des projets en réserve, des bénédictions en réserve, et nous voulons nous attendre à toi. Merci pour cette journée, qu'elle soit encore un sujet de joie, de victoire, de guérison, de délivrance. Et nous voulons, Seigneur, te bénir parce que tu es celui qui agit. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu es toujours ce Dieu d'amour qui fait grâce. C'est pourquoi nous te prions pour celui ou celle qui passe par la maladie, sachant que toi, dans tes meurtrissures, tu as porté ces maladies et tu es le Dieu de guérison. Merci Jésus, nous te rendons toute la gloire en cette journée. Amen. Amen.